représentative n'est pas une vraie démocratie. C'est-à-dire que ces représentants représentent très peu des gens qui les élisent, et surtout ils représentent eux-mêmes ou des intérêts particuliers ou des lobbies, etc. Et ensuite, même si c'était pas comme ça, dire que quelqu'un va me représenter pendant 5 ans, et que ça c'est irrévocable, ça veut dire que je me dévêtis de ma souveraineté en tant que peuple. Rousseau le disait déjà, hein. Les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des représentants tous les 5 ans, et disait-il, ils sont libres un jour pendant 5 ans, le jour de l'élection. Or, même ça, c'est pas vrai, parce que l'élection est pipée. Non pas qu'on triche dans les urnes, elle est pipée parce que les options sont définies d'avance, personne n'a demandé au peuple sur quoi veut-il voter. On le dit, voter sur ou contre Maastricht, par exemple. Qui a fait Maastricht? Bon, c'est pas nous qui avons fait Maastricht. Donc, la vraie démocratie, c'est, bon, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen. Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment? Question. Mais pourquoi ils seraient pas capables de gouverner? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Il vise à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Voilà. Et donc, il y a une contre-éducation politique. Au lieu que les gens s'habituent à exercer diverses sortes d'initiatives, de responsabilités, de pouvoir, etc., ils s'habituent à suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent, etc. Alors, comme évidemment les gens sont loin d'être idiots, le résultat c'est quoi? C'est qu'ils y croient de moins en moins. Et qui a ce cynisme que nous constatons, l'apathie politique, le cynisme que nous constatons.
Dans cette responsabilité citoyenne, dans cet exercice démocratique, est-ce que vous pensez qu'autrefois c'était mieux, qu'ailleurs aujourd'hui c'est mieux par rapport à la France?
Non, ailleurs aujourd'hui ce n'est certainement pas mieux, ça peut même être pire, encore une fois les élections américaines le montrent, n'est-ce pas? Bon. Mais autrefois c'était pas mieux au sens, c'était mieux de deux points de vue. Dans les sociétés modernes, disons dans les sociétés à partir de la Révolution américaine et française, jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, et un tout petit peu après, il y avait encore un conflit social et politique vivant. Les gens s'opposaient, les gens manifestaient. Ils manifestaient pas pour qu'on ne ferme pas la telle ligne de la SNCF, ce qui, je ne dis pas que c'est méprisable, c'est quand même un objectif. Bon, mais ils manifestaient pour des causes politiques, où les ouvriers faisaient grève. Ils ne faisaient pas grève toujours pour des petits intérêts corporatifs. Il y avait des grandes questions qui concernaient tous les salariés qui étaient au travail. Et ça a marqué ces 2 siècles. Or, depuis, ce qu'on observe précisément, c'est un immense recul de l'activité des gens. Et là, on a un cercle vicieux. Plus les gens se retirent de l'activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, etc., prennent sur eux. Et ils ont une bonne justification. Ils disent, bon, je prends sur moi parce que les gens ne font rien. Vous voyez? Et plus ces gens-là prennent sur eux, plus les autres se disent, bon, c'est pas la peine de se mêler, il y en a ceux qui s'en occupent, et puis de toute façon, on n'y peut rien. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui est tout à fait lié à cela, c'est la dissolution des grandes idéologies politiques. L'idéologie, soit révolutionnaire, soit vraiment réformiste, mais pas réformiste pour rire, qui voulait vraiment changer des choses dans la société, pour mille et une raisons qu'on ne peut pas discuter maintenant, a été déconsidérée, a cessé de correspondre au temps, etc., etc., à correspondre aux aspirations des gens, à la situation de la société, à correspondre à l'expérience historique. C'est quand même étonnant, je vais me fâcher quand j'y pense, n'est-ce pas? Il y a eu cette espèce d'énorme événement qui est l'effondrement de l'URSS et du communisme. Est-ce que vous pouvez me dîner une seule personne parmi les politiciens, pour ne pas dire les politicards de gauche qui existent actuellement, qui a vraiment réfléchi sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et a, comme on dit bêtement, tiré des leçons. Alors que, évidemment, quelque chose comme ça appelle une évolution de ce type, à la fois d'abord dans sa première phase, l'accession à la monstruosité, si je peux dire, du totalitarisme, le goulag, etc., etc. Bon. Et puis, dans l'effondrement, méritait une réflexion très approfondie et quelque chose comme conclusion sur ce qu'un mouvement qui veut changer la société peut faire, doit faire, ne doit pas faire, ne peut pas faire. Zéro.